Bonjour Laïla.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter ?
Bah oui, avec plaisir. Mon nom est Laïla Larja. Je suis conseillère en développement durable. Je m'intéresse à la transition socio-écologique depuis un moment, notamment d'un point de vue urbain et spécifiquement au niveau des bâtiments écologiques et de la durabilité de la ville. Voilà.
Merci. En fait, dans ce podcast, donc, c'est vraiment un accès plus de permaculture en lien avec la transition socio-écologique et puis également en lien avec les femmes. Donc, je voulais savoir, pour toi, la permaculture, c'est quoi ?
Bah, la permaculture, j'ai un peu découvert ça grâce à toi, en fait. Puis, j'avoue qu'au début, pour moi, la permaculture se limitait un peu à l'aspect de la culture de jardin. Puis, je comprenais très bien, en fait, cet aspect d'écosystème qui est recréé par l'homme pour maintenir un certain équilibre. Et de fil en aiguille, et notamment grâce au projet du livre et de ta démarche au niveau de la permaculture sociale, bah j'ai pu comprendre un peu l'aspect holistique, que c'est bien au-delà, en fait, juste de l'application à l'échelle du jardin, mais que ça s'applique aussi à l'écosystème humain, en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Puis en lien également avec tout ce qui est habitation aussi ?
Bah oui, totalement, dans le sens que je vois la permaculture sociale, c'est comme un biomimétisme. En fait, on connaît beaucoup le biomimétisme au niveau des technologies, donc des technologies qui essayent de recréer des éléments de l'écosystème naturel pour être appliqués, ce qu'on appellerait la technosphère, donc l'environnement créé par l'homme. Et dans le fond, pour moi, la permaculture aussi, j'aurais tendance à inclure la pensée cycle de vie dans la permaculture, parce que la pensée cycle de vie, c'est un biomimétisme social, donc de gérer. Et en fait, c'est quand même dès ça, depuis longtemps, inclus maintenant dans la gestion immobilière. Donc, on s'est toujours inspiré, on a conscience du cycle de vie d'un bâtiment, et puis on investit, on fait des réparations, on projette le futur du bâtiment en se basant un peu sur cette pensée. Elle était quand même assez simple jusqu'à récemment où ça commence à se complexifier, où le cycle de vie du bâtiment n'est pas limité l'aspect coût économique de l'entretien et tout, mais et s'élargit sur l'impact environnemental, mais aussi l'impact sur les usagers et s'élargit encore plus quand on parle, mettons, d'économie circulaire. Donc là, on se met en relation par rapport au système urbain et système économique aussi, ou système des flux des matériaux. Donc voilà, ce serait le lien pour moi que je verrais vraiment entre le bâtiment et la permaculture sociale.
Est-ce que tu trouves que nos villes sont en train de faire une démarche forte? Ou tu trouves que ça est encore symbolique ou...
Forte, ça serait trop fort de dire que c'est des démarches fortes. Je pense qu'il y a une volonté qui est de plus en plus apparente. Par contre, ça manque de force, pas peut-être par des questions de volonté, parce que, en tout cas, à l'échelle de la ville de Montréal, que je connais un peu plus, je pense qu'il y a une réelle volonté de changer les modes de production et de consommation, mais il y a un gros enjeu de compréhension et de la complexité. Il y a des enjeux opérationnels d'intégration qui sont à la base d'une méconnaissance, d'une part, de la science qui avance qui avance vite, mais en même temps pas tant dans notre capacité d'appréhender la complexité du système naturel, du système urbain. On n'est pas en mesure de tout modéliser en détail, donc ce qui amène certaines limites. Et je pense qu'un des exemples que j'aime bien donner, c'est peut-être la démarche net zéro au niveau de la des villes. C'est un terme qui est de très 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 à la mode en ce moment. On parle de net zéro, de zéro carbone, qui est un genre de malentendu en réalité. Aucune action ou activité peut être zéro carbone, voire positif, dans le sens que scientifiquement ça ne fait pas de sens. Chaque chose a un impact. On peut déplacer des impacts, mais on ne peut pas faire une activité sans impact. Donc, je pense qu'il y a tout un travail au niveau de l'éducation, puis de la vulgarisation, pour que les actions puissent être fortes. Il faut qu'elles soient basées sur des connaissances fortes aussi, puis plus ou moins exhaustives, plus complètes. Et puis ça, c'est tout un chantier, moi, je pense, à venir.
Parce que dans tes différents métiers, tu as travaillé et tu travailles avec des citoyens, des professionnels également du bâtiment, dans toute la diversité des métiers. Mm-hmm. Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce que certains métiers sont plus au courant que d'autres?
Mm-hmm. J'ai travaillé principalement et beaucoup plus effectivement dans le domaine avec des professionnels, notamment en immobilier, en construction et tout. Et en fait, la question justement de la complexité revient, c'est que oui, il y a des connaissances, elles sont cloisonnées. On travaille beaucoup à décloisonner les connaissances à travers des processus de conception intégrée. Et c'est là, au fait... l'intelligence collective rentre en jeu parce que la connaissance, elle est là. Il y en a des professionnels spécialisés en analyse de cycle de vie. Il y a des architectes spécialisés en technique passive de construction. Et c'est une chaîne complexe, au fait, de différents acteurs à différents moments. Et au fait, il y a tout un travail de décloisonnement pour permettre la rencontre des différentes disciplines. Donc, la question au niveau, en tout cas, professionnel, oui, elle revient à une genre de vulgarisation parce que aussi spécialiste, tu peux être dans ton domaine, tu as quand même besoin d'une vulgarisation par rapport à ton collègue qui est dans un domaine autre. Puis, il y a un échange qui doit se faire et des méthodes et des façons de travailler qui sont encore à développer. C'est là où je trouve la permaculture offre aussi un cadre assez intéressant. Je parle de permaculture plus sociale, donc dans cette approche du cycle. Donc on a quand même transporté cette notion de cycle en biomimétisme maintenant dans le développement des villes. Reste aussi à transposer un peu cette notion un peu naturelle de l'intelligence collective aussi dans les pratiques et dans les façons de faire. Et ça, c'est encore en processus aussi. J'aime donner la métaphore de cultiver les perspectives, les idées, leur diversité autour d'une table de réunion, un peu comme dans un jardin. Laisser émerger les différents rôles liés à la conception. Donc, on est encore quand même dans des processus très réglés où il y a des rôles assignés qui, des fois... permettre de structurer l'action, mais peut-être limite la possibilité d'innovation, de sortir un peu des sentiers battus. Puis il y a plusieurs enjeux. Le développement urbain est une question assez complexe. Il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux sociaux, il y a des enjeux environnementaux. Donc,
En fait, justement, je me demandais, est-ce qu'on laisse le temps à ces processus parce que c'est des changements de comportement. Mm-hmm. Donc, si on veut mettre tout le monde autour de la table et prendre le temps de s'entendre et s'éduquer et faire émerger de l'intelligence collective, il faut du temps. Est-ce que les structures professionnelles le permettent, ce temps-là?
Ce temps est à créer. C'est sûr que les processus sont un peu figés selon des pratiques anciennes. Puis ça demande, au fait, y a des agents de changement qui permettent souvent de créer, d'augmenter. Fait que oui, il y a des choses qui se font finalement à l'arrache qui permettent de démontrer que c'est faisable pour argumenter et permettre de donner du temps à ces processus-là qui sont un peu plus longs, de conception intégrée et autres. Ça se fait déjà au niveau institutionnel, il y a vraiment une volonté à ce niveau-là. Et ce qui est intéressant, ce qui m'amène à parler au fait des agents de changement, parce qu'on a besoin de ces agents de changement pour être en mesure de se donner le temps d'instaurer ces façons de faire. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde maintenant le monde un peu de la conception intégrée, il y a énormément de femmes. Les femmes sont un grand moteur de changement, selon moi, dans le développement urbain. Et au fait, ce qui ramène aussi à une question, des questions sociétales qui sont au-delà de la ville et des questions philosophiques, culturelles sur la place de la femme, la place des femmes autour de la table. Donc, c'est ça.
Donc, tu penses que les femmes, en étant plus présentes dans ce monde professionnel-là, par leur culture, on va dire, apportent un nouveau regard et une nouvelle façon de faire du collectif et avancer les projets ?
Totalement, totalement. Je trouve que les femmes ont une approche différente liée au temps. On ne voit pas forcément les enjeux de la même façon. On est souvent prête à prendre beaucoup plus de temps de discussion. Donc, et puis c'est une constatation en fait. Quantité d'animatrices, dans l'écosystème des processus de co-design ou autres, c'est souvent des femmes. Donc, je pense qu'il y a un rôle important. Les femmes jouent un rôle important dans... Et là, on s'éloigne peut-être, là, mais c'est carrément dans la perception du temps, dans le sens, biologiquement, les femmes vivent le temps de façon cyclique d'un mois à l'autre. Donc, de façon un peu intrinsèque, notre perception du temps aussi, elle est différente. Et peut-être qui expliquerait un peu cette constatation de voir les femmes nombreuses au niveau de tous les processus de conception intégrée, de consultation, d'intelligence collective finalement.
D'ailleurs, par rapport à l'intelligence collective, est-ce que tu pourrais essayer de nous en donner ta définition ? Je sais que c'est compliqué, mais...
j'ai à faire une définition assez simple. En fait, pour moi, l'intelligence collective, c'est une façon d'appréhender le monde basée sur l'échange et l'intereducation. Je ne sais même pas si c'est un mot qui existe, mais sur une pédagogie commune et collective dans laquelle on s'interalimente constamment. Et ce qui me ramène un peu à la permaculture, j'aime bien voir, je pense qu'un jardin permaculturel est pour moi la plus belle métaphore qui puisse être pour l'intelligence collective. C'est vraiment une interaction, un équilibre où il y a échange d'informations, mais aussi de matières. Et les matières ou les flux biophysiques pourraient être justement... cette pédagogie là, si on transpose à l'échelle peut-être sociale, donc on se nourrit l'un l'autre, puis on partage l'information aussi, mais l'aspect nourriture intellectuelle est très important au niveau de l'intelligence collective, vu la complexité des systèmes et la complexité des dynamiques à intégrer, à comprendre, ça va être un élément à pousser davantage. L'aspect pédagogique, d'apprentissage, de compréhension de la complexité des phénomènes et autres, pour sortir un peu d'un genre de paternalisme où on guide la foule, on guide... où on guide les connaissances et les changements d'informations vers quelque chose de beaucoup plus fertile et beaucoup plus créateur, de co-création. Ça demande énormément d'énergie au niveau de la vulgarisation, de l'éducation, voilà.
Parce que justement, on a quand même été éduqués plutôt dans la compétition, qu'on le veuille ou non. On essaye de plus en plus dans les écoles d'intégrer la collaboration. On voit que c'est quand même encore en transition. J'imagine dans le monde professionnel, ça se reporte.
Oui, totalement. Puis on peut le voir, il y a une gradation. En fait, il y a un aspect générationnel. Après ça, je ne veux pas tomber dans l'agisme parce qu'il y a autant des personnes de l'ancienne génération qui sont très bercées dans la... collaboration, enfin il en existe et c'est pas toutes les personnes, mais on le voit quand même avec les nouvelles générations, il y a beaucoup plus de facilité de collaboration, on est un peu plus dans oui, tu sais, je peux voir qu'il y a un changement, on est en transition, mais bon, faut accélérer parce que on est en transition, mais les enjeux climatiques s'accélèrent aussi, donc après ça c'est une question de vitesse et j'ai pas forcément la réponse de comment accélérer les choses, mais je peux constater effectivement qu'il y a une certaine transition qui se fait, puis ça me rend par moments optimiste en me disant que tout n'est pas perdu.
Parce que c'est beaucoup une histoire de posture aussi, une posture en réunion, une posture d'écoute, une posture d'essayer sincèrement de prendre le point de vue de l'autre, même s'il nous semble contradictoire par rapport à nos croyances.
La posture éthique est primordiale et c'est là qui nous ramène sur ce point, j'avais beaucoup aimé les travaux de Paulo Freire. dans sa pédagogie des opprimés, là, dans le fond, pour faire court, un sociologue brésilien qui a vraiment consacré une bonne partie de sa vie à l'alphabétisation en Amérique latine, donc qui est le père un peu d'une méthode pédagogique, mais bien au-delà, il avait offert un cadre philosophique de réflexion, de comprendre la pédagogie en sortant, puis il faisait vraiment la distinction entre la posture humanitaire et non humanitaire. Donc quand on est dans une posture humanitaire, et moi dans mes termes j'appelle un peu paternaliste, où on c'est trop compliqué à expliquer, on va simplifier. Ah, mais on va... Et on manque de temps. Fait que ça ramène aussi du temps. Plus tu manques du temps, tu sais, c'est long d'expliquer tout à tout le monde. En plus, chacun comprend différemment. Donc, tu sais, il y a aussi cette accélération du temps. Puis on doit donner des résultats rapidement et tout. Puis, tu sais, des réunions à plusieurs heures aussi, tu sais, ça peut être long et pénible. Mais c'est primordial, au fait. C'est du temps qu'on met maintenant, mais qu'on gagne plus loin, selon moi. Parce que ça nous évite d'aller dans des chemins un peu par rapport pour finalement réaliser, c'est vrai que le net zéro, c'était qu'une mode, et puis finalement, ça n'a jamais réglé. Enfin, tu sais, et aller à la racine des problèmes. Donc, cette posture éthique non humanitaire est plutôt axée sur l'empuissancement, l'éducation, et aussi faire confiance que ça soit aux citoyens ou aux professionnels sur leurs connaissances. C'est aussi être à l'écoute, c'est aussi comme, voilà, c'est ça, tu l'as dit, c'est être à l'écoute de ce que les autres ont apporté, puis, mais aussi prendre le temps de leur expliquer et faire confiance à leur capacité de comprendre. Ça, c'est extrêmement important.
Oui, en effet. Je pense aussi à tout l'aspect de faire confiance que le groupe aura une réponse créative émergente, mm-hmm. et que c'est pas juste la personne sachante, ouais. à prime abord qui, ouais. a l'ensemble des réponses, même, ouais. si souvent cette personne sachante peut apporter le gros de la solution.
Totalement.
Mais oui, la posture de confiance, mais la posture de confiance aussi, mm-hmm. à la base, c'est intéressant, il était un peu hors champ, et oui, en effet. Oui, et puis comparer, justement, je voulais revenir et continuer avec Paulo Freire, que tu t'es passionné récemment, de ce que j'ai compris. Est-ce que tu as envie de nous en dire plus ou...
Personnellement, j'ai beaucoup... pour moi, ça a été une révélation, là. Personnellement, au niveau de Paulo Freire, c'est ce concept... d'oppression, enfin tu sais, on en parle beaucoup d'oppression de nos jours, là c'est à l'ordre du jour, on est beaucoup dans qui est oppressé et qui oppresse, tu sais. Puis en fait, pour moi, la révélation, c'était de comprendre, et là ça donne quand même un certain sacré coup d'humilité pour tout le monde, on est tous des oppresseurs et des opprimés en même temps. Alors peut-être à des proportions différentes selon notre situation socio-économique, culturelle, où est-ce qu'on est né sur la planète, c'est clair. Mais cette, pour moi, cette compréhension que cette dualité, elle est en chacun de nous, et elle est vraiment importante parce que, en fait, ce que Paulo Freire dit, c'est que l'opprimé ne pourra se libérer qu'en s'étant libéré de l'oppresseur à l'intérieur de lui. Donc, et même chose pour l'oppresseur. L'oppresseur a un opprimé en lui. Donc, on va prendre l'exemple du sachant. Le sachant, on vient de dire, ouais, c'est important, la posture et tout. Le sachant, il a aussi des pressions de performance, des pressions de rentabilité. C'est des pressions auxquelles, en fait, l'oppresseur est soumis et justifie une oppression sur l'autre pour pouvoir répondre à ses... Il n'est pas forcément plus heureux là-dedans, c'est ça. Il n'est pas forcément plus heureux là-dedans. Mais de se rendre compte de ça, c'est un travail collectif et individuel à la fois, au fait, parce qu'il y a un bout de chemin qu'on doit faire individuellement pour identifier en soi c'est quoi ces éléments qui m'oppriment et qui me poussent à agir de façon oppressante. Et ça peut être accélérer une réunion, ça peut être ne pas vouloir aborder quelque chose parce que le budget ne le permet pas, on n'a pas de financement. Enfin, tu sais, on exclut beaucoup de choses comme ça, ne faisant pas confiance au collectif qui va arriver à une autre solution, peut-être beaucoup plus créative. C'est ça. Et puis dans l'exemple de l'oppressé, on peut donner l'exemple. Si t'es une personne en fait effectivement qui est oppressée par un système, mais que le soir tu te couches et tu rêves d'une grosse maison, une grosse voiture, un gros salaire,
tu rêves d'être l'oppresseur en fait.
Tu rêves d'être l'oppresseur, et en fait il faut être aussi conscient de ces mécanismes internes où on fantasme aussi finalement son propre bourreau. Fait que il y a beaucoup de déconstruction à apporter à ce niveau-là. Et ce que j'aime avec ce concept, c'est que c'est pas binaire. Il y a pas des bons et des méchants. Tu sais, parce que c'est trop facile quand il y a des bons, des méchants, mais tu sais, c'est un système complexe. On est nous-mêmes un système complexe, puis on a besoin de se comprendre soi-même aussi pour comprendre dans le monde qu'on vit là.
Paulo Freire, il n'est pas forcément très connu en fait.
Non, et c'est quand même drôle quand je l'ai tombé de façon très inattendue sur son ouvrage. Au fait, il m'a été recommandé par un monsieur que j'ai rencontré dans un cadre complètement inattendu au Mexique, un monsieur anthropologue et avec qui on a engagé un peu une conversation comme on en a des fois souvent, tu sais, avec des gens qu'on connaît pas, comme ça donne. Puis en fait, moi, j'étais un peu dans mes lectures de préparation, puis en fait, de façon inconsciente, moi, tous les auteurs que j'avais, c'était des auteurs hommes occidentaux, qui avaient écrit sur l'intelligence collective d'un point de vue anthropologique, sociologique et tout. Puis en ayant cette conversation avec Alberto, que je salue si jamais un jour il nous écoute, et qui m'a dit, tu n'as pas une seule référence autre que des hommes blancs occidentaux. Et c'est lui qui me l'a fait réaliser. Et là, il me dit, as-tu lu Paulo Freire ? J'ai dit, je ne sais pas c'est qui. et c'est parti de là, en fait. Et là, c'est ça, réaliser qu'il y a d'autres perspectives, puis qu'il faut s'ouvrir aussi à ce que... Puis là, on sort de la ville, on devient à une échelle quasiment internationale, le sud global. Bon, on a beaucoup extrait de ressources naturelles, mais je pense qu'il est temps de sortir de l'économie extractiviste pour aussi voir ce que le sud à nous offrir d'un point de vue philosophique, conceptuel. Je pense qu'il y a énormément de nourriture intellectuelle, et ce qui nous ramène un peu à la posture, l'intelligence collective, elle peut être à différentes échelles. Donc on est parti du jardin, là on est rendu à la table des Nations Unies en quelque sorte, où il est temps aussi aux pays occidentaux d'avoir une certaine humilité et s'asseoir et voir ce que 80% de la planète a à leur dire et à leur apprendre, surtout.
Oui, c'est vrai qu'on a encore peu d'autrices et d'auteurs qui arrivent jusqu'à nous, parce que ils sont quand même sans doute entendus depuis certains pays.
Ouais.
Mais en effet. Après, par rapport à Paulo Freire, je me rends compte que moi, je le connais plutôt en lien avec l'éducation et la pédagogie, ouais, parce qu'il fait partie des maîtres penseurs de l'éco-pédagogie, ouais, et qui est né au Costa Rica à la base. Mais c'est une niche, en fait, on reste dans une niche de l'éducation. Et l'éco-pédagogie, quand j'ai découvert ça, je me suis vraiment rendu compte que c'était la façon d'enseigner en permaculture, en fait. C'est la pédagogie de la permaculture sans que ça ait jamais été nommé. C'est juste né en même temps, en parallèle, que la pensée de la permaculture, mais ailleurs, en version beaucoup plus jardin qu'éducatif. Et donc c'est assez drôle de voir que c'est dans les mêmes années qu'ont émergé à peu près toutes ces pensées parallèles.
On est dans la période de décolonisation. On est dans la période où tous ces pays qui étaient colonisés s'ouvraient à leur liberté. On est dans l'empowerment, on est dans l'empuissancement. C'est pour ça que ces penseurs... C'est pas pour rien que Paulo Freire... Bon, personnellement, j'ai moins creusé l'aspect éco-pédagogie et tout. Je me suis beaucoup plus intéressée au pendant peut-être philosophique de sa démarche. Mais en fait, sa démarche est émue par une volonté d'indépendance, de renouveau, de transition. Puis en fait, pense qu'à l'échelle mondiale, on est rendu dans ce, dans cette situation de vouloir se décoloniser du capitalisme. Donc, il est temps, plus que jamais, de dépoussiérer tous ces auteurs. Il y en a plein et malheureusement, je ne les connais pas tous et je suis encore en processus d'apprentissage à ce niveau-là, à découvrir tous ces auteurs. Puis, ils sont nombreux, mais c'est ça, il y a un parallèle assez intéressant. En fait, à l'échelle globale, on est dans une période de transition vers une décolonisation d'un système économique vers autre chose. Donc, ouais, voilà, c'est des bons points d'inspiration.
Et d'ailleurs, dans tes lectures, est-ce que, sans vouloir que ce soit une question piège, est-ce que tu aurais des femmes à nous proposer ou à nous citer ? Je me rends compte que moi-même, je n'en ai pas tant.
Non, bah c'est triste à dire, mais en termes d'intelligence collective, tu sais, puis quand j'ai fait des recherches sur des autrices, enfin, j'en ai pas trouvé. Et en fait, en faisant les recherches, je suis tombée sur une étude qui s'est intéressée aux femmes et l'intelligence collective. En fait, une étude du MIT qui avait, c'était une étude qui avait pour objectif premier de calculer le QI d'un groupe. Donc, il y a différentes approches. Donc, ça, c'est une approche très positiviste d'un département management avec une forte proportion en mathématiques, de mesurer le QI à l'échelle d'un groupe parce que, on peut aussi définir l'intelligence collective comme ça. On peut définir l'intelligence
comme un autre.
Il y a différentes façons de définir l'intelligence aussi. Et au fait, de façon malencontreuse, ce n'était pas l'objectif de leur étude, mais ils avaient réalisé que dans les groupes où les proportions de femmes étaient... Il y avait une corrélation entre la quantité de femmes dans les groupes et les QI des groupes. Fait qu'elles sont comme très présentes en tant qu'objet d'étude ou objet de l'intelligence collective, mais j'en ai pas vraiment beaucoup d'autrices en fait qui sont spécifiquement attaquées à ça. Après ça, je peux penser à des autrices comme Jane Jacobs, qui est une bonne sociologue urbaniste qui a parlé de l'intelligence collective dans un contexte urbain et donc qui aborde le sujet sans que ça soit vraiment le sujet de son thème. Son thème, c'est la ville conviviale, c'est la rue, c'est l'égalité, l'équité en urbaine, là, dans le sens que... c'est comme si on l'a de façon implicite. Donc finalement, on peut trouver différentes autrices et souvent elles vont se démarquer en ayant une approche dans laquelle elles vont valoriser l'intelligence collective, mais encore au niveau domaine de la recherche, j'en ai pas trouvé... Beaucoup d'autrices qui se sont intéressées ou qui ont... Enfin, il y en a probablement des nouvelles. Enfin, je pense à des chercheurs comme à HEC, Marina Goguet, enfin, qui s'intéresse à l'intelligence collective dans un contexte de management et d'innovation. Il y en a, enfin, c'est toutes des jeunes autrices. Mais tu sais, dans les pères fondateurs, enfin, de la trempe du Paulo Freire de cette époque-là... Peut-être qu'il y en avait, peut-être qu'elles ont été invisibilisées, je ne les ai pas trouvées, là, mais c'est ça.
Oui, de toute façon, il y avait moins d'espace pour...
Pour qu'elles puissent s'exprimer. Donc,
même aujourd'hui encore, on se rend compte que la majorité des livres... C'est ce que je me suis rendu compte, que la majorité des livres en permaculture, si je reviens sur cette thématique, sont écrits par des hommes. La majorité des youtubeurs ou des influenceurs en permaculture sont des hommes. En technique permaculturelle ou permacole également... Puis finalement, je me rends compte sur le terrain qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans le faire, ouais, qu'on n'entend jamais parler. Mmh. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu cette envie de faire ce podcast qui les mette un peu en lumière. Mais même pour moi, c'est difficile de les trouver.
Ouais.
C'est vraiment mélangeant, je trouve.
Mais c'est une constatation intéressante parce que, tu sais, il y a l'aspect théorique, il y a l'aspect pratique, et tu sais, après ça, il y a le praticien réflexif, là, au sens de Albert Simon, puis un peu toute cette école de l'intelligence artificielle, on va dire ça, au sens social du terme, là, des années 70, où faire, c'est une chose, avoir un recul sur ce que tu fais, ça en est une autre, ça demande un autre... exercice en fait mental où il faut que tu prennes recul par rapport à ce que tu fais pour être en mesure de l'expliciter et d'en faire des outils, des réflexions et autres. Mais quand on peut faire le lien avec la charge mentale des femmes, bah, tu sais, ça m'étonne pas. Bah, déjà, qu'elles font, puis si elles ont en plus la charge mentale domestique, ça laisse peu d'espace à avoir du recul pour avoir une démarche réflexive sur leurs actions.
Mmh. On est encore sur la notion de temps.
Le temps est primordial, en fait.
Et en même temps, quand on parle avec ces femmes, enfin, c'est un « on » un peu général, mais je me rends compte qu'elles l'ont, le côté réflexif. C'est juste qu'elles n'ont pas le temps de le marquer.
Temps, c'est ça.
Ou il y a une histoire de confiance aussi, j'ai la sensation.
Mais en fait, de temps, de confiance, peut-être aussi, c'est les deux et peut-être c'est différent. Et peut-être il y a des femmes qui ont du temps, mais ils n'ont pas la confiance. Ou des fois, elles ont la confiance, mais elles manquent de temps. Et des fois, peut-être les deux, tu sais. C'est certain. Mais en même temps, je sens que dans notre génération, puis la génération qui s'en vient, la relève, elle est là. On sent qu'on est prête, on le prend ce temps, enfin, dans le sens que on commence à revoir un peu, puis prendre le dessus, mais aussi il y a de plus en plus d'hommes qui sont alliés, en fait, faut pas oublier ça, donc ce qui aide énormément, donc on a de plus en plus d'alliés, on a de plus en plus de liberté aussi, puis de volonté, puis de réalisation et de conscience, et on bâtit aussi un peu sur des acquis qui nous ont, enfin, si on regarde les États-Unis, fragiles encore aujourd'hui, hein, tu sais, mais qui nous ont été offertes par nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, nos mamans et tout, qui fait qu'on a des acquis sur lesquels on peut bâtir, et puis je pense qu'on commence à se libérer les mains et on s'en vient. C'est ça.
Ben, merci beaucoup, Laïla.
Merci à toi.